L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, retrouvé mort, assassiné.
Non.
Bien, je vous rassure. Non, c'est pas de l'actualité, mais bien heureusement de la fiction. Et c'est l'intrigue du polar, co-signé par Emmanuel Petit, invité de France Bleu Soir. Retrouvez-le après le journal de la rédaction. Bienvenue à vous. Et bonsoir, Frédéric Dorel.
Bonsoir, Arnold. Bonsoir à tous.
La dépollution de l'Atlantique est en cours après le naufrage du Grande America il y a 15 jours.
Deux navires de dépollution déchargent à La Rochelle ce qu'ils ont ramassé en mer, des dizaines de tonnes de déchets pétroliers, tandis que le reste du pétrole dérive vers l'Espagne. Les syndicats de fonctionnaires manifestaient aujourd'hui contre la réforme de la fonction publique. 120 000 postes devraient disparaître dans les 3 ans qui viennent. La ministre de la Santé recevra demain le rapport très attendu sur le grand âge. En 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux en France que les moins de 20 ans.
Trois hommes comparaissent ce soir après les opérations punitives lancées contre des Roms.
Ils sont soupçonnés d'avoir agi sur la foi d'une rumeur sur les réseaux sociaux. Nous serons en direct avec le journaliste Thomas Huchon, qui est spécialiste des fake news. Le Brexit, les députés britanniques votent à nouveau ce soir et le brouillard continue de s'épaissir. En foot, les joueuses du PSG jouent en ce moment leur quart de finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea. Une actualité qui devrait intéresser votre invité ce soir, Arnold.
Demandons-lui tout de suite, Emmanuel Petit, ça vous intéresse ?
Bonsoir tout le monde, bien sûr que ça m'intéresse.
Bah voilà, bah oui.
D'autant plus qu'il y a la Coupe du Monde féminine qui arrive dans ma région, au Havre, en Normandie, très bientôt.
Ouais. Bah voilà, vous êtes venu ici également pour un polar, co-signé par Gilles Delpapas, Dernier Tacle, c'est aux éditions du Seuil, on en parle jusqu'à 20h, voici tout de suite le journal.
France Bleu Soir, Arnold Derek, Frédéric Dorel.
Journal que l'on va débuter à La Rochelle, où la dépollution du Grande America est en cours.
Deux navires de dépollution sont en train de débarquer le pétrole récupéré en mer, des dizaines de tonnes de déchets qui vont maintenant être traités. Catherine Berchetsky.
Première mission pour les quelques 45 personnels mobilisés, nettoyer et dégraisser le bateau. Le gros du travail arrive ensuite. Il s'agit de prendre en charge des bennes de 15 à 20 mètres cubes situées sur le pont du navire et chargées de galettes d'hydrocarbures. Yannick Prestavoine est le directeur des opérations industrielles pour Sécher Urgence Intervention.
Donc les bennes que vous voyez sont remplies donc de déchets hydrocarburés. Notre travail va être de les gruter pour les mettre donc sur le domaine terrestre.
Et pour ce faire, c'est une gigantesque grue capable de soulever 140 tonnes qui intervient. Le chargement prendra ensuite la route.
Pris en charge par un transport matière dangereuse pour aller sur une installation classée qui va incinérer l'ensemble du déchet.
Direction le site de Triadis à Rouen qui incinérera les galettes d'hydrocarbures. Par la suite, les déchets liquides seront eux acheminés sur le site de Trédis en Isère. D'autres bateaux sont attendus dans les prochains jours, confirme le commandant du VN Sapeur.
Vu les conditions sur zone pour l'instant, d'autres bateaux vont venir à leur tour et effectuer ainsi un roulement pour toujours conserver des bâtiments sur zone en intervention et que les autres viennent faire de la logistique sur la balise.
De nouveaux bateaux attendus dès vendredi. On le voit, le port de La Rochelle est devenu un site stratégique au vu de la direction plus sud, compris les nappes de pollution en direction de l'Espagne. Les deux premiers navires débarrassés de leur cargaison ont pu quant à eux reprendre la mer dès ce soir.
Catherine Berchatsky, France Bleu, La Rochelle. Le pétrole qui dérive se dirige vers l'Espagne. A priori, il devrait donc épargner la Charente-Maritime et la Gironde.
À Saintes, le procès du meurtrier présumé d'Alexia se termine.
Accusée de s'être acharnée sur sa camarade de lycée sur l'île d'Oléron parce qu'elle repoussait ses avances, le jeune homme comparait à huis clos. L'avocate générale requiert 30 ans de réclusion criminelle.
Et puis à Lyon, l'école montée par Marion Maréchal a été vandalisée cette nuit.
Façade noircie à la peinture, vitres enfoncées, le bâtiment a été la cible d'un groupe antifasciste. L'ex-député RN du Vaucluse espère une réponse ferme de la justice.
Comme attendu, le projet de réforme de la fonction publique prévoit de supprimer 120 000 postes d'ici 2022.
Alors ce sera 70 000 dans les communes, départements et régions et 50 000 pour les services de l'État. Le gouvernement voudrait faire adopter le texte avant l'été. Les syndicats de fonctionnaires dénoncent un passage en force et ils ont manifesté un peu partout aujourd'hui, comme Jannick, représentante CFDT aux finances publiques.
Que ce qu'on veut, nous, c'est des vrais centres de services publics, en fait, de services au public, donc de conserver à minima les trésoreries pour les usagers et les collectivités locales. Et puis, si resserrement il doit y avoir au niveau, pareil, même des impôts, c'est de conserver malgré tout des points d'accueil stratégiques pour pouvoir recevoir les usagers. La crainte, c'est de voir la fonction publique être gérée comme une entreprise. On n'est pas une entreprise. On n'a pas cette notion de rentabilité, puisqu'on est à rendre un service à l'usager. La colère, oui, parce qu'on est fier du métier qu'on fait. On a le service public dans notre ADN, sinon on ne serait pas fonctionnaire. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ça est menacé. Et tout ça est menacé par le biais de cette transformation de la loi pour la fonction publique. C'est le message au ministre, c'est écoutez-nous et ne cassez pas le service public.
Yannick, fonctionnaire aux finances publiques et délégué CFDT à Nantes.
Les baby-boomers entreront dans le grand âge en 2030. Et 2030, c'est dans 11 ans. Et
alors, pour s'y préparer, le gouvernement reçoit demain un rapport. Mais on sait déjà qu'il faut plus de maisons de retraite et des personnels mieux payés dans l'aide à domicile aussi. Exemple de ces petites idées qui peuvent faire beaucoup, deux salons à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille qui ont été financés par AG2R, la mondiale. Les patients peuvent y retrouver leurs proches, Corinne Blotin.
Oui, un coin salon à proprement parler avec fauteuil en couleur, télé, bibliothèque et puis un coin salle à manger avec micro-ondes, réfrigérateur et une grande table autour de laquelle Daniel et sa maman Céline, 92 ans, se sont installés à plusieurs reprises.
On a déjeuné ici à midi, on est bien assis, puis les familles peuvent s'asseoir avec, donc c'est bien, c'est une bonne idée.
On a l'impression de vivre parce que quand on est enfermé toute une journée dans une chambre, c'est beaucoup plus malade, beaucoup plus sympathique. Oui.
Et le fait de prendre un repas autour d'une table et pas dans sa chambre, eh bien cela participe aussi à la rééducation de ces patients hospitalisés souvent plusieurs semaines. De longues journées rythmées par les soins et parfois par quelques visites, mais pas toujours. Et l'autre mission de ces petits salons, c'est de proposer aux patients de l'animation et des ateliers. Marie-Ève Grisoni est psychologue.
Les patients et leurs familles ont la possibilité de pouvoir rentrer dans cet atelier comme ils veulent. Souvent, les familles me disent « Oh là là, mais écoutez, on vient voir un papa, maman qui est très fatigué, qui est couché. » Mais ça nous encourage quand on est en bout du couloir et qu'on entend chanter, parler, voir du monde. C'est important. Il y a un sourire.
Le sourire, oui, c'est important quand on vieillit. Corinne Blotin, France Bleu Provence, on estime qu'il faudrait entre 11 et 25 milliards d'euros supplémentaires pour financer la dépendance en 2030.
Un remaniement pourrait intervenir entre vendredi et lundi, nous dit le gouvernement.
Remaniement pour remplacer Nathalie Loiseau aux affaires européennes, mais aussi Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, va démissionner d'ici demain pour être candidat à la mairie de Paris.
Christophe Castaner interdit la manifestation des Gilets jaunes de samedi à Paris.
Pas de périmètre précis pour l'instant. Le ministre de l'Intérieur sous-entend que c'est la même interdiction que samedi dernier sur les Champs-Élysées.
19h07, bonne soirée. Restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. On y parlera Brexit. Le Parlement britannique doit encore voter ce soir. Un imbroglio tel que Nicolas Ballu va nous l'expliquer comme si on avait 10 ans.
Oui.
C'est un peu le cas. Les Parisiennes du PSG reçoivent Chelsea ce soir en Ligue des Champions. Mais d'abord, ils sont soupçonnés d'avoir mené des expéditions punitives. 3 hommes comparaissent aujourd'hui en justice.
Oui, ils font partie de la vingtaine d'interpellés d'hier après la chasse à l'homme qui a visé des Roms en région parisienne. Des opérations de lynchage sur la foi d'une rumeur qui vise cette communauté sur Twitter et Facebook. Thomas Huchon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et spécialiste des fake news, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Sauf que cette fois, on a atteint un degré jamais atteint en France, une rumeur qui aboutit à des violences.
Effectivement, c'est absolument terrifiant. C'est qu'il y a une forme de puissance à ces réseaux sociaux qui peuvent permettre à des mensonges d'avoir des conséquences dramatiques dans la vie réelle. On n'est plus du tout dans un univers dématérialisé, on est dans un univers où les mensonges qui circulent sur Internet se répercutent dans la vraie vie et ont des vraies conséquences.
Alors à l'étranger, c'est pire. Les réseaux sociaux ont tué 22 personnes dans des lynchages en Inde. Comment est-ce que c'est possible un tel degré de crédulité, on peut dire comme ça, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas forcément croire ce qui se dit sur Twitter et Facebook?
Le problème, si vous voulez, c'est que l'immense majorité des gens aujourd'hui s'informent via les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas voir les deux faces de la, les deux face différente d'une information. Vous n'allez voir qu'un seul sens, majoritairement les choses auxquelles vous croyez déjà ou vous adhérez déjà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ces derniers jours en France? Eh bien, on voit tout un tas de gens rejoindre des groupes sur Facebook, notamment, dans lesquels ils vont s'inquiéter, se poser des questions sur des disparitions supposées d'enfants. Sur ces groupes, on ne voit jamais de contradiction, on ne voit jamais de fact-checking, on ne voit jamais un élément qui va dire « mais non, il n'y a pas de disparition d'enfants, non, il n'y a pas de kidnapping ». Et donc, du coup, ça fonctionne un peu comme un vase clos, et les gens vont s'énerver, s'exciter, la mayonnaise va monter quelque part, et à la fin, ça a des conséquences terribles, puisque nous avons dans notre pays je crois qu'il faut utiliser le terme, je crois qu'on a assisté à des tentatives de pogrom depuis deux jours dans notre pays.
Et alors les démentis même, hein, n'y font rien. On peut dire que, autant sur Twitter que sur Facebook, la parole des autorités, la police, la justice, les médias est décrédibilisée à chaque fois qu'elle s'exprime.
Mais oui, c'est que quelque part, Internet a disrupté nos manières de nous informer. Et il arrive aujourd'hui au monde de l'information et au monde de la politique ce qui est arrivé il y a 20 ans à l'industrie de la musique et à l'industrie du cinéma. C'est-à-dire le fait que tout ça vole en éclats et que nos codes de l'ancien monde volent en éclats. Le problème, c'est qu'on est toujours aujourd'hui confronté à des problèmes, notamment des problèmes de haine, des problèmes de mensonges. Et ces plateformes, visiblement, n'ont pas décidé de faire de ces problèmes-là des problèmes importants qu'il faut résoudre immédiatement.
Vous nous terrifiez. Merci quand même, Thomas Huchon, spécialiste des fausses informations sur les réseaux sociaux. Merci donc de ces explications sur France Bleu.
Merci à vous.
La tombe du photographe américain Man Ray, dégradée au cimetière Montparnasse.
La stèle semble avoir été arrachée et le portrait de l'artiste est brisé. Né Emmanuel Rudzinski, Man Ray, grande figure du surréalisme, est mort en 1976 à Paris.
Côté santé, c'est la fin de l'épidémie de grippe.
Tous les indicateurs sont en baisse. En effet, la grippe a fait 8800 décès cet hiver.
Les députés britanniques votent à nouveau ce soir sur le Brexit.
Alors, 8 options sont sur la table, hein, pas moins. C'est toujours le bras de fer entre la Première ministre Theresa May et le Parlement. Alors, pour tout nous expliquer, Nicolas Ballu, vous faites comme si on avait 10 ans.
Il était une fois un pays où le Parlement, tout à coup, prit un instant la main dans un processus de négociation internationale mené par son gouvernement. Il était une fois un pays où les députés, pris d'une frénésie de vote, décidaient de voter pour les options qu'ils préféraient. On s'en va sans accord, on reste, on s'en va mais on reste mais on s'en va, un petit peu, beaucoup, on fait voter tout le monde. En tout, 8 options, dont là où les principales s'imposeraient à la Première ministre. Mais dans ce pays, la Première ministre pouvait très bien s'en passer et elle avait prévenu « si ça ne correspond pas à mes options à moi, je n'en tiens pas compte ». Le problème, dans ce pays, c'est que la Première ministre était si faible que ses propres députés conservateurs ne votaient pas pour l'accord qu'elle avait trouvé. Qu'il lui en fallait trouver 75, alors certains de ses adversaires acharnés, en échange de leur vote, demandèrent sa tête. Mais paradoxalement, ces adversaires-là, effrayés de leur liberté et la possibilité de ce que l'on appelle un Brexit doux, ou pas de Brexit du tout, préféraient aussitôt soutenir l'accord proposé par Theresa May. Pour tous, le triomphe était dans l'humiliation et inversement, mais ça c'est l'épisode suivant.
Et dernier épisode en date, Theresa May, la première ministre de ce pays qu'on appelle la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, annonce qu'elle démissionnera avant la prochaine étape de négociation avec l'Europe. Merci Nicolas Ballu.
Un nouvel enfant de Français djihadiste vient de rentrer en France.
C'est Khadija, une petite fille de 3 ans. Elle avait 4 mois quand ses parents ont quitté l'île pour les territoires contrôlés par Daesh. Sa mère Jamila est aujourd'hui condamnée à la perpétuité en Irak et en attendant de retrouver sa grand-mère. Ce sont les services de protection de l'enfance qui la prennent en charge. Davantage d'informations sur francebleu.fr.
Du sport à présent, il n'y a plus de club français en Ligue des Champions. On parle foot, mais il en reste en Ligue des Championnes.
Oui, alors on ne dit pas encore comme ça, hein, mais allez savoir, ça viendra peut-être. En tout cas, 2 clubs français sont encore en lice ce soir pour leur quart de finale retour, Lyon et le PSG. Des Parisiennes qui jouent d'ailleurs depuis 12 minutes. Vincent Pellegrini, vous y êtes au stade Jean Bouin. Et leur objectif est simple, il faut effacer la défaite de l'aller à Chelsea.
Oui, défaite 2-0 Frédéric, effectivement, et un début de match très poussif des Parisiennes qui ne parviennent pas pour l'instant à se créer la moindre occasion face à une équipe de Chelsea qui a dominé territorialement les 10 premières minutes, qui ne s'est pas non plus créé d'occasion, mais c'est un début de match un peu décevant de la part de cette équipe parisienne qui s'est inclinée donc 2-0 au match aller et qui doit marquer assez vite pour espérer se qualifier pour les demi-finales. On rappelle que cette équipe de Paris est invaincue dans ce stade Jean Bouin cette saison. saison qu'elle avait déjà atteint la finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans, battue au tir au but par l'Olympique Lyonnais. Mais pour l'instant, toujours 2 buts d'avance pour Chelsea, qui a remporté le match aller 2-0 et qui pour l'instant tient parfaitement le score 0-0 entre les deux équipes.
Merci Vincent Pellegrini. Au stade Jean-Bouin, où on l'entend, il y a de l'ambiance. Hein. Les Lyonnaises, elles, jouent leur match retour chez les Allemands de Wolfsburg. Et à la mi-temps, le score est de 2-0 pour Lyon.
Allez, on termine ce journal avec un incident diplomatique. Mmh. Madonna est en train de se fâcher avec le Portugal.
Oui, à cause de son dernier clip tourné ce week-end à Sintra, près de Lisbonne. La Madonna voulait faire entrer un cheval dans un manoir du 19e. Le maire s'y est opposé. Et l'affaire est montée jusqu'au Premier ministre portugais. La Isla Bonita, juste pour l'ambiance, hein, parce que dans cette chanson, Madonna nous emmène au Belize, hein, c'est en Amérique centrale, on y parle espagnol, pas portugais, donc
exactement,
ça n'a rien à voir.
Bravo de le remarquer, merci Frédéric Dorel. Merci pour toutes tes infos, et puis place à Emmanuel Petit, juste après ce petit point météo.
francebleu.fr
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur francebleu.fr.